Vous écoutez, on lit pour vous.
Des journalistes américains placés sur la ligne de front de la démocratie. Un texte de Fabien Deglise, paru le 11 juin 2024 dans Le Devoir. Quand elle se souvient de cette journée de juillet 2023, la journaliste Doni Chamberlain semble en être encore ébranlée. On m'a expulsé avec force et violence d'une réunion publique parce que les participants ne voulaient pas que je rapporte leurs propos, raconte-t-elle, assise dans le salon de sa résidence de Redding, siège du comté de Shasta, dans le nord de la Californie. Parmi eux se trouvait Chris Kellstrom, un des trois élus, fervent trumpiste et militant du « Make America Great Again », MAGA, qui, depuis 2021, ont décroché une majorité au sein du Conseil des superviseurs de cette région rurale, la plus haute instance politique de ce gouvernement local. Je suis sorti de là avec une commotion cérébrale et une blessure au cou, poursuit l'éditrice du blog A News Café, qui suit de près les dérives autoritaires qui caractérisent la montée en puissance de ses partisans de Donald Trump dans ce coin d'un des États les plus progressistes des États-Unis pourtant. C'est une expérience traumatisante, doublement traumatisante, puisque, malgré les témoignages et une vidéo exposant l'altercation, le procureur du comté n'a pas jugé bon de retenir des chefs d'accusation contre mon agresseur. Républicain depuis des décennies, le comté de Shasta a vu sa politique se radicaliser dans les dernières années avec l'arrivée au pouvoir de militants de l'ex-président, issus des mouvements anti-mesures sanitaires nés durant la pandémie et carburant, tout comme lui, aux théories complotistes, à la rancœur et aux affirmations sans fondement sur une prétendue fraude électorale. Et les rares journalistes qui, comme Doni Chamberlain, persistent à documenter sans complaisance cette expérience singulière de gouvernance sont devenus pour eux des cibles de choix. Nous sommes entrés dans un environnement hostile, résume assise à la terrasse d'un café de Reading, Annalise Pierce, ex-travailleuse communautaire et journaliste indépendante au sein du Shasta Scout. Les médias et les journalistes sont constamment ridiculisés, traités de menteurs, diminués lors des réunions publiques. Ce climat de défiance est entretenu par les propos parfois violents tenu à notre endroit par les élus du gouvernement du comté, ce qui nous met quotidiennement à risque. Elle ajoute « Nous savons que plusieurs des élus et même des citoyens portent des armes lors de ces rencontres. Si ça s'échauffe et que quelqu'un décide de s'en servir, qui va être abattu en premier, croyez-vous? Les représentants des médias indépendants, c'est sûr. Le Trumpisme, à petite échelle qui s'est installée dans le comté de Shasta, suit sans surprise la rhétorique du mouvement. Il met ainsi en application le dénigrement et l'intimidation des journalistes n'adhérant pas aveuglément aux lignes du populiste comme stratégie d'attaque de ses conservateurs radicaux contre une élite politique et médiatique qu'il rêve de remplacer. C'est le plan qui vient de Donald Trump, dit Doni Chamberlain. On insulte les journalistes, on mène des campagnes de harcèlement en ligne contre eux, on multiplie les humiliations à leur endroit. Toutes les personnes qui remettent en question leur politique et leurs décisions ou éclairent leurs incohérences et les risques qu'ils font peser sur l'administration publique s'exposent à des menaces, parfois des menaces de mort laissées sur un répondeur. Les risques de la vérité et les occasions d'être exposées aux foudres de ces militants du Trumpisme désormais au pouvoir sont nombreuses dans ce nouveau contexte politique local qui force les journalistes à quotidiennement témoigner de purges dans l'administration publique ou de jeux de pouvoir au sein des comités décisionnels. Ils doivent aussi recadrer, expliquer, démentir des informations incomplètes ou volontairement erronées visant à imposer une vision, une idéologie dans un monde que ces nouveaux élus ne donnent pas toujours l'impression de bien comprendre. Ils affirment vouloir faire les choses autrement, mais leur incompréhension fondamentale de la manière dont les choses fonctionnent réellement finit par créer beaucoup de problèmes dans l'appareil gouvernemental, dit Annalise Pierce. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'énergie à démonter des propagandes, à rappeler des règles de fonctionnement ou des concepts légaux attaqués. Plusieurs de leurs décisions risquent ainsi d'entraîner un effondrement de services publics ou une suppression de droits, et il faut les expliquer pour permettre aux citoyens de bien comprendre les tenants et aboutissants de plusieurs de leurs campagnes. En avril 2024, le Conseil des superviseurs du comté a alimenté une rumeur selon laquelle un autobus chargé de migrants était en route vers Redding depuis le sud de la Californie. La chose n'a jamais réussi à être démontrée, mais la tactique a permis à mobiliser les partisans des nouveaux élus sur l'adoption d'une nouvelle politique visant à réduire les droits des citoyens issus de l'immigration sur le territoire du comté. Ils cherchent à occuper tous les postes qui se libèrent dans l'administration publique, y compris dans des conseils secondaires, comme celui du contrôle des moustiques et des vecteurs de transmission, où l'un des leurs est entré récemment, dit Donnie Chamberlain. C'est une stratégie d'infiltration insidieuse qu'il faut continuer à surveiller de près, car, au bout du compte, elle va leur permettre d'avoir un contrôle total sur tous les aspects de la vie quotidienne des résidents du comté, de la délivrance de permis aux demandes de passeport, en passant par les services de santé, les élections, le système scolaire et les réseaux de transport. Voir la démocratie partir. Expliquer, éclairer, aider à comprendre, cela a toujours fait partie du travail du journaliste. Mais dans notre contexte particulier, cela devient fatigant, poursuit Annalise Pierce. Parfois, je me sens comme devant le jeu de la taupe, à constamment repousser avec une massue une affirmation erronée ou un point de discours fallacieux qui finissent par réapparaître par un autre trou. Une expérience de perte de la démocratie, dit-elle, qui l'incite d'ailleurs à poursuivre malgré tout son travail. Je vois le comté de Shasta aujourd'hui comme étant sur la ligne de front de la démocratie américaine. Mes enfants me demandent régulièrement pourquoi je continue à tenir mon blog et à suivre la politique locale dans un tel climat, ajoute Donnie Chamberlain. C'est vrai que c'est épuisant de documenter tout ça et de constater que, malgré mes efforts, ces militants du Trumpisme résistent aux critiques et accentuent même leur emprise sur le gouvernement local. Les médias indépendants de la région, financés par les contributions d'une poignée de lecteurs, se perdent dans un écosystème médiatique dominé par une télévision locale, propriété du groupe Sinclair Broadcast, dont le grand patron avait promis en 2016 à Donald Trump de livrer son message. Les radicaux au pouvoir localement ont également lancé Mountain Top Media, qui diffuse un ensemble d'informations sous forme de vidéos ou de balados faisant la promotion des idées extrêmes du mouvement de l'ex-président, celles qui attaquent la crédibilité des élections, des institutions démocratiques, des accords internationaux, des mesures environnementales ou déshumanisent les immigrants et se montrent réductrices sur les régimes autoritaires. Je pourrais retourner à ma vie d'avant, écrire des articles légers sur le jardinage et l'art de vivre, poursuit Donnie Chamberlain, mais ce serait de l'inconscience. Il est en train de se passer beaucoup de choses dangereuses ici, et il faut en conserver chaque trace, conclut-elle. C'était des journalistes américains placés sur la ligne de front de la démocratie, un texte de Fabien Deglise paru le 11 juin 2024 dans Le Devoir.
La recette de Drummondville, un texte de Suzanne Colpron, paru le 7 août 2024 dans La Presse. Les gens de Drummondville ont compris quelque chose. Si on veut des immigrants, on ne pourra pas avoir beaucoup de succès en attirant ceux qui se sont installés à Montréal. Il faut les recruter directement à l'étranger. Cette recette mise au point par Drummond Économique, l'organisme de développement de la ville, a porté ses fruits. La population est passée depuis 2021 de 79 à 83 000, en grande partie grâce à l'immigration. Et cela ne transforme pas seulement la démographie de la ville, ça change également son visage. Aujourd'hui, les nouveaux venus du Cameroun, de la Colombie, du Congo, du Maroc, du Mexique ou de la Tunisie sont partout, dans les rues, les supermarchés, les usines, les hôtels, les loisirs. Jean-Eumaciel Bossico a ouvert l'épicerie haïtienne Marché Agapé, rue Saint-Jean, en plus de travailler comme préposé aux bénéficiaires. Mais il n'est pas seul dans ce quartier de la ville qui abritait traditionnellement les ouvriers. Sur deux coins de rue, en face du marché public, on trouve un restaurant cambodgien, délices Chouk Tep, la Tienda Latina, un dépanneur latino, la Casa Quebola, un restaurant cubain, Casa Latina, une épicerie latino-américaine, le centre islamique de Drummondville, l'épicerie exotique Kania et le restaurant Africa Kwabo, qui entoure des établissements plus traditionnels comme la pizzeria Maxime, les bureaux de la Société Saint-Jean-Baptiste, le magasin général Saint-Joseph ou le guichet Desjardins. M. Bossico habitait à Montréal avant de déménager à Drummondville. Mais la plupart des immigrants ne viennent pas de la métropole. En fait, ils sont de plus en plus nombreux à arriver directement en région avec un permis de travail fermé ou un permis d'études sans passer par Montréal. Beaucoup sont recrutés par des entreprises qui ne parviennent pas à pourvoir localement des postes vacants. Celles-ci peuvent toutefois compter sur l'appui de Drummond Économique. Julie Biron, directrice de l'attraction de talent à Drummond Économique, nous dit « Avant la pandémie, nos entreprises avaient des défis importants d'attraction de main-d'œuvre. On a décidé de les épauler dans le recrutement. Mais les choses ont rapidement changé. On ne savait pas que l'immigration allait prendre une aussi grande place, rappelle-t-elle. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'une ville comme Drummondville carbure maintenant à l'immigration pour assurer son développement et le succès de ses entreprises. Dans les dernières années, Drummond Économique a joué un grand rôle dans le recrutement et la rétention de ses travailleurs et a ainsi développé un savoir-faire qui a été mis au service d'autres régions du Québec. L'organisme donne par exemple un coup de main pour le recrutement de l'usine de Northvolt. Mais pour y parvenir, il a fallu affiner la stratégie. On rêvait encore d'attirer des gens qui sont déjà ici. Mais faire déménager des gens au Québec quand tout le monde vit la même situation, c'est peine perdue. Pour être honnête, faire déménager des gens de Montréal, ce n'est pas simple. C'est beaucoup d'énergie et pas de rendement. Dans les dernières années, 700 entreprises ont participé à l'une ou l'autre des missions à l'étranger de Drummond Économique, organisées en partenariat avec le ministère de l'Immigration du Québec. Mais si l'attraction est essentielle, son complément incontournable, c'est la rétention. Il ne faut pas seulement attirer des immigrants, il faut les garder et déployer des efforts pour qu'ils deviennent les résidents permanents de demain et qu'ils peuplent les régions. Cela exige des services d'accueil personnalisés, des activités d'intégration, une formation pour les entreprises, la publication d'un guide des bonnes pratiques. Rasakti, spécialisée dans l'usinage et la fabrication de composantes pour l'industrie aéronautique, a recruté 53 travailleurs étrangers depuis 2019. Son taux de rétention est de 75 %. C'est important de diversifier les pays pour que tout le monde apprenne à se parler, explique le propriétaire André Roseberry. Les nouveaux arrivants sont accueillis à l'aéroport, accompagnés dans la recherche d'un logement, formés et conseillés. Parce que nous, on veut que ça marche à la fin, affirme Mme Biron. On est en région, mais pas tant que ça. la tentation d'aller à Montréal est grande. C'est juste à 1 heure de route, donc il faut que les travailleurs étrangers se fassent des réseaux. On essaie vraiment d'être créatif. Ces efforts sur le terrain sont à 1000 lieues du débat politique. Pendant que les politiciens s'inquiètent du nombre de résidents non permanents, une région comme Drummondville en veut encore plus et, surtout, souhaite qu'il reste pour toujours. En 2023, à Drummondville, on a fait 202 accueils de travailleurs étrangers du Maroc, de la Tunisie, de la France, de la Colombie, de Madagascar et de 20 autres pays. Il y avait 17 familles, 16 couples et beaucoup de célibataires, précise Éric Marchessault, coordonnateur à l'accueil et à la rétention des travailleurs étrangers. « Nous, on veut des gens qui vont s'ancrer ici », ajoute Mme Biron. « On n'est pas dans le saisonnier, on est dans une perspective de développement économique. » Ça tombe bien. C'est aussi ce que cherchent les immigrants temporaires qui acceptent de venir combler des besoins de main-d'œuvre ou de suivre des formations sur les bancs d'école. Sylvana Tovar, 43 ans, est arrivée du Brésil en octobre 2020 avec son mari, ingénieur informatique, recruté par CGI. « C'était notre choix de vivre à l'extérieur de Montréal, dit-elle, pour le français, la qualité de vie, l'absence de trafic. » Avocate dans son pays, Sylvana travaille aujourd'hui à l'accueil des nouveaux immigrants à Drummondville. Pour elle et son mari, Drummondville, c'est le rêve. « J'ai vécu dans d'autres villes, et les gens ici sont vraiment différents, spécialement avec les immigrants, confie-t-elle. Ils sont patients, même si on parle mal français. » Ils sont généreux, ils ont la volonté de nous aider à nous intégrer. Les gens sont vraiment pro-immigration. Shelley Barbosa, 29 ans, vient aussi du Brésil. Elle est arrivée à Drummondville en décembre 2021 avec un permis d'études pour faire un DEP en secrétariat. Ça fait maintenant 1 an qu'elle travaille comme adjointe administrative. Drummondville, pour moi, c'est associé à famille. C'est vraiment ma ville, explique-t-elle. J'habitais dans une petite ville au Brésil où tout pouvait se faire à pied. Ici, c'est la même chose, mais en plus, c'est sécuritaire. Je peux sortir seule, habiter seule. Joachim Lariva, 39 ans, lui, vient de l'Équateur. On est tombé en amour avec la région, dit-il, en parlant de Drummond, où il est déménagé en 2023 avec sa femme et leurs 2 filles après 7 ans à Québec. Notre rêve était d'acheter une maison. Après la COVID-19, les prix ont presque doublé à Québec. Mais ici, après quelques mois, on a acheté une belle maison. Le coût de la vie, l'accès à des activités pour les enfants, c'est beaucoup moins cher, poursuit-il. La famille, la nourriture me manque un peu, mais pas tant. C'était La recette de Drummondville, un texte de Suzanne Colperon, paru le 7 août 2024 dans la presse.
Quand les pourboires élevés appauvrissent les restaurateurs. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 16 août 2024 dans la presse. Avec l'utilisation répandue des modules de paiement, les pourboires versés aux serveurs sont de plus en plus élevés. Or, cette grande générosité des clients, qui laisse parfois une grosse somme malgré eux, nuit à la rentabilité du restaurant, a constaté François Pajot, professeur de gestion à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ. Plus les pourboires donnés aux serveurs sont importants, plus les propriétaires de restaurants s'appauvrissent, affirme-t-il. Des terminaux de paiement proposent des options de pourboires élevées qui commencent à 18% et peuvent aller jusqu'à 22%. Il y a des charges qui sont reliées au pourboire, et quand les restaurateurs mettent le pourboire après les taxes, c'est encore pire. En faisant ça, il se tire dans le pied, se désole le professeur Pajot. Lorsqu'un client règle la note avec sa carte de crédit, le propriétaire doit payer aux Visa et Mastercard de ce monde une somme équivalente en moyenne à 2,5 % ou 3 % du montant total de la facture. Il verse également aux différents ordres de gouvernement des charges sociales imposées sur le pourboire et la masse salariale. Cela représente environ 18 % du montant de la facture selon l'analyse de François Pajot. Pour illustrer son point de vue, M. Pajot nous a présenté une simulation. Une facture totale de 200 $ avant taxes et pourboires passera à 229,50 $ avec la TPS et la TVQ. Si le client donne un pourboire de 15 %, soit 34,43 $, le montant final à payer sera de 263,93 $. En tenant compte des frais de carte de crédit de 3 %, si la note est réglée de cette façon, et des avantages sociaux à remettre sur les pourboires et la masse salariale, vacances, régime des rentes du Québec, assurance-emploi, le restaurateur devra payer de son côté 24,20 $. Si le client laisse un pourboire de 18 %, le montant que le gestionnaire déboursera s'élève à 25,64 $. S'il donne 20 %, ce sera 26,60 $. Si le consommateur appuie sur l'option 22 %, le restaurateur paiera 27,57 $. Le professeur tient toutefois à préciser que son calcul est basé sur des ratios moyens de l'industrie et qu'il ne s'applique pas à toutes les entreprises de la même façon. Il ne tient pas compte non plus du crédit d'impôt provincial qui permet de récupérer 75 % des déductions à la source que les restaurateurs peuvent réclamer sur les pourboires. Selon lui, les propriétaires d'établissements n'en font pas tous la demande, une information confirmée par l'Association Restauration Québec, ARQ. À noter que, sur les terminaux de paiement, le montant total inclut systématiquement les taxes. Le pourboire est ensuite ajouté par le client. Or, normalement, il devrait être calculé avant l'ajout de la TPS et de la TVQ. Donc, un consommateur qui appuie sur l'option 15 % donne dans les faits un pourboire plus élevé. Plusieurs terminaux offrent des options qui vont de 18 % à 22 %. Pour certains clients, il peut paraître compliqué, voire intimidant, d'entrer manuellement la somme qu'il souhaite remettre, nous a-t-on souvent rapporté. Un sujet délicat. Les conclusions de M. Pajot sont justes, selon les restaurateurs interrogés. C'est mathématique, reconnaît Pierre Moreau, PDG de Resto Plaisir, Cochon d'Inde, Lapin Sauté, Café du Monde. Au Québec, on est parmi les rares législations qui paient des charges sociales sur le pourboire et dans nos restaurants. Environ 80 % à 90 % des transactions se règlent électroniquement. Donc, on paie des frais de carte de crédit et des frais au gouvernement, ajoute-t-il. Le sujet semble néanmoins créer un malaise chez plusieurs propriétaires qui ne veulent pas soulever l'ire de leurs employés sur le plancher en programmant, par exemple, les terminaux de paiement pour qu'ils offrent des pourcentages de pourboire moins élevés. On ne va pas mettre 10 %, 12 %, 15 %, parce que là, ce sont les employés de service qui vont se plaindre, soutient Éric Lefebvre, président-directeur général de MTY, qui compte environ 6600 restaurants en Amérique du Nord, appartenant notamment à des chaînes comme Bâton Rouge, Mike's ou Thai Express. C'est leur gagne-pain, donc, je peux comprendre. Ce qui est difficile, c'est de trouver un équilibre pour les employés et pour les clients. Oui, c'est certain que ça nous coûte plus de sous, admet-il, mais si le pourboire est élevé, ça veut peut-être dire qu'on a donné un meilleur service, une meilleure expérience et que le client est peut-être prêt à revenir. Ça nous coûte quelques dollars de plus, mais Si ça fait en sorte que le client revient la semaine prochaine, on va aussi y trouver notre compte comme restaurateur. Des solutions. Fort de ce constat, François Pageot invite les restaurateurs à programmer leurs terminaux de paiement pour qu'ils affichent uniquement la possibilité d'entrer manuellement le pourboire. Il est également possible de demander à son fournisseur de décider des pourcentages de pourboire qui apparaissent à l'écran, a confirmé l'entreprise Moneris par courriel. De son côté, l'ARQ réfléchit en ce moment à une façon de sensibiliser les exploitants dans ce dossier et de les aider à améliorer leur rentabilité, explique son vice-président affaires publiques et gouvernementales, Martin Vézina, qui affirme « On veut casser le mythe qui laisse croire que quand le pourboire est élevé, ça fait l'affaire du propriétaire. » Martin Guimont, propriétaire de la brasserie Saint-Boc à Montréal, ne cache pas son malaise devant les options de pourboire élevé. C'est vraiment insultant pour le client, lance-t-il. En ce moment, les clients n'ont pas beaucoup d'argent. Les machines pourraient proposer 13 % 17 % 20 % Pour Pierre Moreau, au-delà des terminaux, une meilleure rentabilité passe inévitablement par un partage des pourboires entre la cuisine et la salle à manger. Une décision que seuls les employés peuvent prendre pour le moment. La technologie, les augmentations du salaire minimum, les augmentations de coûts, les charges. On pense que le pourboire devrait être réparti entre la salle et la cuisine. Ça va nous aider pour la rétention du personnel de cuisine et pour son recrutement. Perdre un employé et le remplacer, c'est extrêmement dispendieux. Terminal de paiement, quelques suggestions pour donner le juste pourboire. Comme le montant inscrit sur le terminal inclut les taxes, un client qui souhaiterait donner au serveur 15 % de pourboire peut choisir d'entrer manuellement 13 % En calculant le montant des deux taxes, il est également possible d'arriver au montant qui équivaut à 15 % de la facture avant taxe. Le consommateur peut donc entrer manuellement le pourboire qu'il veut donner. À noter que donner 15 % de pourboire est une norme sociale, selon l'ARQ. Rien n'empêche un client satisfait de remettre 18 % 20 % voire 22 % Il est également possible de donner moins en cas de mauvais service. C'était « Quand les pourboires élevés appauvrissent les restaurateurs », un texte de Nathaël Morissette paru le 16 août 2024 dans La Presse.